Bonjour et bienvenue sur le podcast Insensé. Ici, Kelly Méran. Insensé, c'est le podcast en quête de sens. J'y interview de belles âmes qui alignent leurs valeurs, leurs rêves et leurs croyances avec leurs projets de vie. Et ça fait sens. Insensé, c'est aussi un podcast indépendant qui a besoin de vous. Pour le faire vivre, je vous invite à ajouter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément. J'en profite pour remercier Luffyken qui écrit le commentaire suivant. J'ai découvert ce podcast un peu par hasard. Ce hasard s'est révélé être une formidable surprise avec des interviews de qualité et une source d'inspiration illimitée. Pouvoir entendre les parcours d'individus totalement alignés avec eux-mêmes, alors que parfois ce n'était pas gagné, est révélateur que tout le monde peut y arriver. La quête de sens est accessible à tous et ce podcast vous permettra d'en prendre conscience. Je recommande chaudement. Merci.
Voici comment l'histoire a commencé.
Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Ah ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez.
What's your purpose ? What's your cause ? What's your belief ?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bosh !
Réfléchissez.
La vie a-t-elle un sens ?
Qui suis-je ?
Mais il est complètement fou ce mec !
Aujourd'hui, je reçois Angelo Follet. Il est thérapeute, conférencier, mais aussi directeur artistique dans la musique. Issu d'une famille de danseurs et chorégraphes, on pourrait dire qu'il a toujours été passionné par la vibration, d'une certaine manière, et peut-être la cherche-t-il aussi en tant que thérapeute. Côté musique, il produit, coproduit, compose et réalise. Il accompagne les artistes à trouver leurs pattes, leurs voix VOIE et VOIX. À ses côtés, des artistes tels que Héloïse Letissier, aka Christine and the Queen, ou encore Grand Corps Malade. Côté thérapeute, il est formé à la fois en psychologie, en se spécialisant en thérapie émotionnelle, en approche systémique et en analyse transgénérationnelle. Mais aussi en énergétique par la médecine traditionnelle chinoise, indo-tibétaine et le Reiki. Les vibrations qu'il trouve dans ces deux passions se transforment en une expertise, un métier qui lui sied comme un gant, car il se les crée lui-même. Il consiste à développer l'intelligence émotionnelle pour mener une vie créative. Il propose des séances individuelles, des stages de groupe et des conférences. Angelo, je l'ai découvert initialement via son compte Instagram Balance ta peur, qui compte plus de 50 000 followers, et un podcast du même nom. L'objet de ces initiatives, célébrer la vulnérabilité de nombreux anonymes à travers des confidences de sa communauté. De là, il partage des apprentissages, des images, des inspirations, bref, des réflexions qui éveillent les consciences. Comment il est arrivé aux 50K ? Il ne sait pas du tout. Troublant comme parfois certains contes s'envolent et trouvent leur public. Les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. Angelo est un homme authentique, centré, qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité, car ça en fait sa force. Il semble avoir trouvé les clés pour transformer la peur avec un grand P en amour avec un très grand A. Ce qui, à mes yeux, pourrait être la réponse à plusieurs mots, M-A-U-X, de notre société, et même plus précisément de chacun d'entre nous individuellement. Avant de vous laisser découvrir le personnage, sachez que l'épisode a été enregistré avant le début du confinement. Petit aparté, pour celles et ceux qui ont suivi le projet TEDx Belleville, qui ont postulé comme speaker ou acheté leur billet, nous avions prévu un événement le 20 juin qui est reporté compte tenu des événements. Plus d'informations sont à venir sur les comptes des réseaux sociaux de TEDx Belleville. Le thème que nous avions choisi cette année est « Where do we go now ?» Où va-t-on à présent ? Cette journée devait être découpée en trois parties. La première, questionner le passé à trois niveaux, en tant qu'individu, en tant que communauté et en tant que société. Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on laisse du passé ? La seconde, vivre le moment présent, seule bulle où le bonheur peut se ressentir, seule parenthèse où l'action et la création prend place, seule bulle de réalité quand le passé n'est que souvenir, et le futur qu'une imagination. Et enfin, la troisième partie de cette journée, construire le futur. À quel futur souhaite-t-on contribuer ? Thème visionnaire ou pur hasard, dans tous les cas, on ne peut plus actuel. Retrouvez le lien d'un article sur le sujet fraîchement publié en lien dans la description de l'épisode. On revient à Angelo, je vous laisse découvrir le personnage. C'est mieux hein, si ça enregistre.
T'es sûr que t'as de la carte, de la batterie, de la mémoire, tout ça hein?
J'ai de la carte, de la batterie et de la mémoire. Mais j'ai pas
mon cerveau. Mais j'ai pas tout le cerveau. Il te manque un bras.
Il manque un bras. Mais on va y arriver.
Ouais.
On va y arriver.
Ouais.
Angelo, bienvenue sur le podcast Insensé. Je suis ravie de te recevoir chez moi. On est en plein cœur du 10e arrondissement. Comme tu l'as constaté, j'ai un peu la tête dans le brouillard aujourd'hui. Toi, comment tu te sens?
Moi, ça va. J'ai un peu la tête dans le brouillard aujourd'hui aussi. J'ai pas le coronavirus, mais je suis juste un peu fatigué. Et voilà, je viens de petit déjeuner le temps que tu règles tout ça. Donc, c'est cool. Ça va mieux.
Merci. Merci pour ta patience. Angelo, ma première question. Quelle est ta plus grande peur?
Ah oui, direct.
Direct.
C'est ma question, ça, d'habitude.
C'est vrai?
Ma plus grande peur, tu sais qu'elle change hein, en fonction de la journée, en fonction du moment. Hein. Je crois que j'ai peur. Le truc qui est là en ce moment, c'est la peur de ne pas réussir à trier un petit peu tous les trucs que je fais, les dossiers que je dois gérer. En fait, je suis très, très en joie de tout ce qui se passe autour de ce que je fais parce que je fais plein de trucs et ça, c'est cool. Mais du coup, disons que la sollicitation est assez intense en ce moment et j'en suis ravi. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui réponde à ma place pendant que je dors ou, je sais pas, tu vois, ou pendant que je vais pisser. Quoi. Parce que en fait, ça me fait peur. En fait. Ça me fait peur parce que je comprends pas comment on peut faire quelque chose qui peut avoir de l'ampleur ou un impact pour des gens, tu vois, pour un certain nombre de gens, et en même temps, je sais pas comment font les gens qui, tu vois, les potes, tu vois, les Grands Corps, les Giorgio, les Eddie Depreto, ou d'autres, enfin, tu vois, les vraiment les personnes qui sont très, 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 très médiatisées, pour le coup, je pense que du coup, il y a des équipes où il y a des gens qui gèrent ça, mais moi, je suis juste ma petite entreprise à moi tout seul, et puis c'est pas la notoriété comme les personnes dont on parle, mais je crois que ça me fait peur en fait. Ça me fait peur parce que en fait, j'arrive pas à gérer, je crois.
C'est de pas pouvoir répondre présent.
Bah ouais. Alors il y a pas mal d'amis qui m'ont dit ça, qui m'ont dit mais en fait, te sens pas obligé de répondre à tous les messages déjà. Et je dis ouais, mais bon, en même temps, à chaque fois je leur dis mais on sait jamais. Enfin, tu vois, des fois tu tombes sur un mail, un message, une personne. On se parle d'un sujet et puis finalement ça débouche sur un truc. En fait, c'est aussi comme ça que se sont développées un peu toutes mes activités. Donc maintenant que c'est un peu développé ou que ça se développe, ouais, comment gérer le truc? Évidemment, il y a dans tous les messages, il y a plein d'échanges qui vont pas plus loin que mais merci, c'est super ou c'est cool ou à bientôt ou machin, tu vois, des trucs très simples. Mais parfois il y a des propositions intéressantes, enfin tu vois, la preuve c'est qu'on se rencontre aussi, tu vois, c'est con, mais
ok,
ouais, ça me fait un peu peur parce que je pour l'instant c'est crevant pour moi.
Et donc la peur, c'est aussi la peur de perdre une opportunité qu'il y a derrière, ou une connexion, une rencontre?
probablement qu'il y a un truc de l'ordre de la peur de passer à côté d'une rencontre ou d'un projet ou d'une idée. Et en même temps, en fait, je vois bien que même en dehors de ces sollicitations, mon cerveau, il est... il fuse, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... J'ai tout le temps plein d'idées, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, même en dehors des échanges, de toute façon, ça boue, quoi. Mmh. Tu vois? C'est pour ça que la créativité, pour moi, c'est important, parce que c'est vrai que si ça reste dedans, il y a moyen de faire un burn-out tout seul, tu vois, des trucs que t'as pas fait, en fait. Donc, voilà, et voilà, mon grand apprentissage dans tout ça, c'est finalement de prendre du temps pour moi, de me reposer, de rien faire, de regarder une série, voilà, de jouer à la console. Ça me fait marrer, quoi.
Pour équilibrer le tout.
Ouais.
C'est utile, la peur?
Oui, c'est utile quand il y a des dangers, quand il y a des vrais dangers. T'imagines bien que tous les gens qui se sont sauvés du Bataclan, qui ont réussi à sauver leur peau, heureusement qu'ils avaient peur. Je sais pas, tu te balades, bon, ça arrive rarement, mais tu te balades dans la forêt, il y a un lion qui t'attaque. C'est utile d'avoir peur aussi, de pas traverser n'importe comment dans la rue. La peur, c'est un... Moi, pour moi, c'est de plus en plus en train de devenir quelque chose de l'ordre de vraiment de l'instinct, plus que de l'émotion. L'émotion, ça passe vraiment par le ça passe vraiment par le mental, par l'intellect. Une émotion, ça, c'est un mot qu'on a mis sur une sensation ou un signal électrique, en fait, hein, une mise en mouvement. La peur, il y a quelque chose de vraiment de l'ordre du réflexe, quoi. Et évidemment les peurs que je traite, moi, le gros problème, c'est que souvent t'es pas au Bataclan, quoi, quand t'as peur. Donc en fait, à partir de ce moment-là, ça devient totalement inutile.
C'est quoi les types de peurs que tu traites?
Est-ce
qu'il y a des patterns?
Ouais. Bah, les grandes peurs, ça reste quand même la peur de la mort ou la peur de la vie. J'ai peur de vivre, j'ai peur de mourir. Ou la mort des autres, la mort des proches, etc. La peur de vivre, en fait, c'est aussi la peur de prendre des risques. Hein. Derrière la peur de vivre, il y a la peur de mourir, finalement, en étant vivant.
Okay.
C'est un peu le principe de base, tu nais et t'es condamné à mourir, du coup. Quelle joie. Il y a la peur aussi de la responsabilité, de la liberté. La grande liberté que tout le monde veut, finalement, elle fait peur à tout le monde, parce que ça veut dire que, du coup, si t'étais totalement libre, ça voudrait dire qu'il faudrait totalement être responsable de ce que tu fais. Si t'es totalement libre, si tout repose sur toi, ton choix, ta décision, à partir du moment où tu fais tel choix et que tu te plantes ou que ça n'a pas forcément l'impact que tu voulais, ça veut dire qu'il n'y a que toi qui es responsable. Et donc la liberté va avec la responsabilité. Ouais. Mmh. Ça, c'est les grandes peurs existentielles. Après, t'as la peur de l'absence de sens aussi, de l'absurdité du monde. Mmh. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi, tu vois ?
Qui est un petit peu l'objet du podcast aussi.
Voilà, donc le sens, quoi, c'est en fait tellement personnel pour chaque personne, chaque individu, que c'est compliqué, je trouve, de dire la vie, ça sert à ça, ou le sens de la vie, c'est ça, ou le sens de l'amour, c'est ça, etc. Il y a une telle absurdité que, finalement, encore une fois, ça nous renvoie à une espèce de page blanche qui est la vie, et qu'est-ce que j'en fais, quoi. Mmh. Donc ça nous renvoie après à la responsabilité, et donc... si je fais rien, je meurs ou je vis, quoi. Mais il y a un risque, en tout cas. Mmh. Et l'autre grande peur, c'est la solitude, l'abandon, le rejet, l'isolement. Enfin, tu vois, tout ce qui est de l'ordre de être en dehors de la communauté, être en dehors du groupe, être isolé, quoi.
Comment est-ce qu'on adresse les peurs ?
Comment est-ce qu'on adresse les peurs ?
Il y a une question peut-être un peu plus précise. Par rapport à ton compte Balance ta peur, il y a beaucoup de contenu... que je trouve assez inspirant, et à plusieurs reprises tu compares d'une certaine manière, dis-moi si j'utilise les bons mots, la peur à l'amour.
Ouais.
Et comment est-ce qu'on transforme, quelles sont les clés pour transformer la peur en amour?
Ah, je pense que je serais pas dans ton canapé si j'avais les clés.
Ah, c'est vrai.
Je pense que je serais déjà en haut d'une montagne en train de dire à tout le monde comme un grand gourou... faites ceci, faites cela. Effectivement, pour moi, il y a... Alors, la peur ne s'oppose pas à l'amour, hein, contrairement à beaucoup de bouquins. Elle est inclusive, c'est inclus. La peur est inclue comme toutes les autres facettes de l'être humain, comme toutes les autres émotions. Elle est inclue dans l'amour. L'amour, c'est pas un... L'amour, c'est un... C'est pas un objet, quoi. C'est pas un truc qui est... comment dire... solide et qu'il faudrait posséder et garder le plus longtemps possible. Le problème, c'est que la plupart des humains considèrent l'amour comme ça. C'est un truc que je dois avoir, quoi. Mmh. Et donc, du coup, le fait est que, comme c'est quelque chose que je dois avoir et que je dois garder le plus longtemps possible pour être heureux ou pour être bien dans mes pompes, du coup, je vais projeter sur un objet qui est solide, l'amour. Donc, je vais le projeter sur quelqu'un. Ça va devenir mon amour. Donc, c'est mon amour, c'est moi qui le possède, c'est mon mien. Et il faut voir que je garde le plus longtemps possible pour être bien. Ou mon chien, ou ma maison, ou ma voiture, ou mon boulot, ou ma famille, ou mon physique. Enfin voilà. Et du coup, pour moi, en fait, l'amour, c'est juste le résultat de quand tu traverses ta peur. C'est tout.
L'amour, c'est le résultat de quand tu traverses la peur.
Ouais. L'amour, c'est pas un truc, si tu veux, qui est fixe, qui est figé. C'est l'état que tu ressens quand tu te relèves. C'est l'état que tu ressens quand tu as souffert et qu'il y a un moment donné où ça se soulage, ça se résout. Mmh. C'est l'état que tu ressens quand, effectivement, tu avais peur de te lancer, de monter sur scène, et que tu montes sur scène et que ça y est, y es et là tu profites et tu transmets quelque chose, etc.
Tu reprends d'une certaine manière possession de tes pouvoirs.
Je crois que tu te laisses surtout te déposséder de tout. C'est plutôt l'inverse, c'est quand il n'y a plus rien qui s'accroche, quoi, tu vois, et que toi t'es plus accroché à rien. C'est un moment où en fait quelque part toutes ces questions existentielles de la mort, du sens, de l'absurdité, de la liberté, etc. Ne sont plus là en fait. Pour moi l'amour c'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose en moins. C'est l'absence de tout ça en fait, l'amour. C'est tu sais, c'est comme quand t'es enfant, quoi, tu vois, quand t'es gosse, souviens-toi, il y a des moments où t'étais vraiment dans le kiff. Mais à ce moment-là, t'as aucune conscience de rien du tout, quoi. Mmh. Et c'est après, quand on te demande, tes parents, ils te demandent alors que c'était bien aujourd'hui. Ah oui, on a joué avec Samuel et c'était super et machin. Et après, ça devient de l'émotion. Et après, ça devient une histoire, tu vois. Mmh. Et ben, cette espèce de présence inconsciente où il n'y a plus de temps, et donc où il n'y a plus de peur, parce que la peur est reliée au temps, qui est reliée à l'ego, là, il y a de l'amour, en fait.
Tu peux nous expliquer la peur qui est reliée au temps, qui est reliée à l'ego?
La peur, elle est reliée au temps. Alors, la peur, non pas comme système de survie qui est nécessaire en cas de danger réel, mais en tant que soi-disant émotion ultra présente en ce moment, d'ailleurs. La peur elle est reliée au temps parce que c'est toujours une sensation ou une émotion ou un souvenir passé, un événement passé qu'on projette dans le futur. C'est ce qui crée l'inertie et le blocage en fait. Et
si on prend l'exemple du...
Si on prend l'exemple de j'ai peur de monter sur scène. Mm. Ok, si j'analyse un peu mieux, qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de monter sur scène? Ah bah j'ai peur d'être ridicule. Mm. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans le fait d'être ridicule? Bah si je suis ridicule, bah j'ai peur qu'on m'aime pas. J'ai peur de pas bien faire. Ok. Ah ok. Donc ça, est-ce que tu l'as déjà ressenti? Ah bah oui, carrément. Je me souviens à l'école primaire quand on fallait qu'on récite des poésies, c'est exactement la même sensation. Ah ok. Alors tu retournes en primaire. Donc là, t'as 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et donc déjà, tu te rends compte que en fait, sur scène, quand t'as peur, t'as 8 ans. Donc déjà, ça veut dire que t'es pas dans le présent. T'es bien dans le passé. Et tu reprojettes un truc que tu as déjà vécu dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer si je suis ridicule sur scène, quoi.
Mmh. Et le rapport avec l'ego?
Donc ça, c'est le rapport au temps. Et le rapport avec l'ego, c'est qu'en fait, l'ego, c'est la partie de la psyché ou de la conscience qui nous permet de nous différencier en tant qu'individu parmi les 8 milliards d'individus. Donc ça peut passer par le corps. Tu vois, par exemple, souvent, il y a des écoles qui vont dire qu'il ne faudrait pas d'ego. Alors qu'en fait, si, l'ego, c'est ton véhicule, quoi. C'est ce qui te permet aussi de te mouvoir, d'exister dans le monde matériel.
Il y a une définition pour l'ego?
L'ego, c'est la représentation de soi.
D'accord.
Donc ça veut dire que si tu n'avais pas de corps, déjà, tu ne pourrais pas te représenter. Donc c'est pour ça que ça passe par le corps, d'abord, l'ego. Mm. C'est ton corps qui fait que je sais que je suis pas toi et que tu n'es pas moi, déjà. Alors les jumeaux, ils ont un peu plus de problèmes là-dessus. Mais du coup, l'ego, c'est ce qui nous permet de nous différencier déjà en tant qu'individu de par l'image qu'on a de soi, de par la représentation qu'on a de soi. Après, l'ego, c'est aussi la somme de tout notre conditionnement. Et le fait est que tout notre conditionnement nous donne ce qu'on appelle, nous, notre identité ou notre personnalité. Donc en fait, on passe notre temps à dire qu'on est notre histoire ou qu'on est notre conditionnement. Alors qu'en fait, c'est juste un conditionnement.
Et là encore, tu as un exemple pour
imaginer ça. Par exemple, si mon père m'a abandonné, on va reprendre cette histoire, si mon père m'a abandonné quand j'étais petit, qu'il est parti, et que je continue à avoir peur d'être abandonné à 30 piges, ça veut dire qu'en gros, je suis conditionné par l'abandon en pensant que je suis encore abandonné, parce que j'ai été un enfant abandonné. Donc en fait, c'est comme si aujourd'hui, à 30 ans, je me définissais encore comme un enfant abandonné. Alors qu'au moment où j'ai 30 ans, je ne suis plus abandonné. Mon père, il est parti il y a 30 ans. Mais sauf que, en fait, pour exister, parce que ça fait partie de mon histoire personnelle, pour me différencier de toi, ou au contraire, pour m'identifier à toi, parce qu'on est tous un groupe de gens abandonnés par leur père, on a créé un groupe Facebook, c'est super. Ça ou l'inverse, du coup, c'est ce qui fait qu'on arrive à plus ou moins se définir et à donc soit s'identifier à un groupe ou à un autre, soit au contraire se différencier. Mmh. Donc ça peut être ça, ça peut être... En fait, tout ce à quoi tu t'es identifié dans ton conditionnement et dans ton existence, et qui te permettent de te définir aujourd'hui, et qui te t'enferme finalement dans un carcan très limité, puisque le définir par définition, c'est mettre des limites, enfin tu vois, cloisonner. Du coup, en fait, ça devient souvent une crise identitaire à un moment donné, autour de 30 ans, une crise égotique. Et alors, donc, pour finir sur le thème de la, du temps, c'est qu'en gros, l'ego, il nous permet aussi, du coup, de nous donner l'illusion qu'on est toujours nous-mêmes, jour après jour, heure après heure, minute après minute, quoi. Qu'est-ce qui fait que demain, t'es encore Kelly ? Bah, c'est grâce à ton ego.
Ok.
Si t'avais pas le même corps, pas la même histoire, si t'étais pas identifié à tout ce à quoi tu t'es identifié, construite, toute l'histoire qui fait que tu es toi, mais sachant que l'histoire, c'est un regard, hein, parce qu'en fait, c'est pas la réalité, l'histoire. Bah, du coup, si tu pouvais pas être identifié à ça, peut-être que demain, sans l'ego, tu ferais une crise identitaire en disant « Merde, mais qui je suis, du coup ?» Si je suis pas la Kelly qui a vécu tout ça, qui n'est pas ce corps, qui n'est pas ce métier, qui n'est pas dans le dixième, tu vois.
D'un côté,
ouais.
J'ai l'impression qu'il faut se désidentifier, par exemple, de ses blessures, donc tu parlais de la blessure d'abandon,
ouais.
Pour pouvoir se libérer.
Ouais.
De l'autre côté,
ouais.
Je serais totalement perdue si j'avais zéro identification.
Eh oui.
Mais je ne serais pas un peu plus libre ?
Bah, tu serais plus libre parce que du coup, tu pourrais être qui tu veux. C'est
je
ça la différence.
Changer de forme chaque jour.
Bah oui, c'est ça la créativité, c'est la liberté de choisir ta forme. Et c'est ça qui libère en fait. Si je me construis toute ma vie comme un directeur artistique musical. Et que ça s'arrête du jour au lendemain, je fais quoi après si je suis ça ? C'est ça la question. Et tout le monde passe par cette crise. On voit souvent les personnes qui partent à la retraite, qui sont identifiées à leur métier, bah, elles font des dépressions quand elles partent à la retraite. Parce qu'ils ont été leur boulot. En gros, tout ce que tu mets derrière « je suis », c'est ce à quoi tu t'identifies. Et la beauté de tout ça, de tout ce travail, c'est pour ça que je le fais, c'est de voir qu'il y a quelque chose en dessous, quoi. Qui je suis si je ne suis pas ni mon métier, ni mon prénom, ni ma famille, ni mon passé, ni mes blessures.
Tu vas aller creuser là-dedans.
Ouais, ni mon corps.
Et là, la réponse est assez unique, j'imagine qu'elle est propre à chacun.
Ouais.
Là, il y a peut-être un peu moins de pattern.
Mais c'est le lien avec l'amour pour moi. Dire que l'amour, c'est quand il n'y a plus ça. C'est les tout petits moments très courts d'état où t'es plus défini, où t'es plus tout ça, quoi. Tu vois ? C'est pour ça que je parlais de l'enfant qui kiffe, parce qu'en fait, il n'en a plus rien à foutre de rien. Il a beau avoir été abandonné quand il était petit, au moment où il est en train de jouer dans la cour avec son copain ou ses copines, etc., il n'y a plus d'histoire. Donc il n'y a plus de passé, donc il n'y a plus de temps. On en revient au passé, au présent.
Et la boucle se reboucle.
Ouais.
Et on parle souvent d'amour dans une relation à deux.
Dans une relation à deux, ouais.
Qu'est-ce que... J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que là, on parlait de l'enfant qui est... comment dire ? Avec lui-même, face à sa création, ou son jeu, ou cet échange. Comment est-ce qu'on redéfinit alors l'amour à deux ? Parce que là, c'était quelque chose de très individuel.
Pourquoi tu veux le définir, déjà ? Bah non, mais tu vois, de le définir, ça serait déjà lui donner des frontières, quoi, tu vois. Et c'est ça le problème, je crois. C'est qu'il y a eu un tel conditionnement sur ce que devait être l'amour ou à quoi devrait ressembler l'amour qu'il y a plein de sensations, je sais pas combien de gens qui se sentent en échec face à l'amour ou qui n'y croient plus parce que ça correspond pas à ce qu'on nous a vendu ou ce qu'on croit ou au conditionnement de la représentation de l'amour, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours la même en fonction des pays, en fonction de la culture, mais tu vas en Orient, c'est pas forcément le même la même vision en plus. Mais moi ça me pose question de vouloir définir l'amour, justement c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de le définir en creux. L'amour, c'est tout ce que c'est pas quand t'es dans la peur, quand t'es dans la souffrance, quand t'es... C'est une fois que tu traverses tout ça, en fait, que ça émerge. C'est ce moment-là, un peu d'épiphanie, où, puis c'est fugace, quoi.
Et alors que les gens voudraient que ce soit un objet, qu'ils voudraient le posséder, qu'ils voudraient le garder et qu'ils voudraient que ça soit permanent. Mais c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire, je crois, aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, l'amour, c'est le résultat du courage de traverser les épreuves, de faire face à ses peurs et les dépasser, de prendre des risques. Et à ce moment-là, peut-être qu'à un moment donné, ça... Ah tiens, une fois que j'ai enlevé toutes les couches, bah tiens, ah oui. Ah là, je sens que je suis bien là. Mmh. Ok.
Comme
je vais kiffer
tout à l'heure
parce que je sais pas tant combien de temps ça va durer.
Ouais.
Hop, tu vois.
Tu as dit dans une de tes interviews que ta patientèle venait de voir sans forcément savoir ce qu'ils allaient ressortir, sans forcément savoir ce qu'ils venaient chercher littéralement. En fait, je voudrais que tu nous parles de ton parcours et de surtout comment t'es arrivé à ça. Parce que j'ai un peu l'impression que ta boîte, c'est toi.
Ouais.
C'est Angelo Follet.
Ouais, point com. Non, inc, voilà. Dot inc.
Et ça m'intéresserait de savoir comment, à tes yeux, est-ce que t'es arrivé à ça.
C'est
à
quoi,
ce métier qui est unique et vraiment fait sur mesure par rapport à ton parcours, en fait.
Ouais. Je crois que aujourd'hui je fais le métier à la fois. Je pense que je fais le métier à la fois que j'aurais. Ouais, j'aurais toujours aimé faire. J'aurais toujours voulu faire. Ça fait. Je me souviens m'être inscrit en lettres. Enfin, en bac L au lycée pour faire psycho à la base. Puis après, j'ai découvert la philo, et puis je suis tombé amoureux de ma prof de philo, donc je suis plutôt allé vers la littérature, les arts et tout ça. Et je faisais déjà de la musique, donc du coup, j'étais déjà assez sensible à la mise en forme, on va dire. Et puis, clairement, j'étais trop jeune pour faire de la psycho. Puis vraiment, je pensais qu'il fallait être vieux, avoir un canapé et ne pas parler. Donc ça, j'avais une vision analytique, en fait, enfin, psychanalytique... à l'ancienne en plus, parce que la psychanalyse aujourd'hui a évolué. Et puis je fais aussi un métier je crois que c'est un peu parce que j'aurais toujours voulu qu'on me parle comme ça, j'aurais toujours voulu qu'on m'écoute comme ça, qu'on me guide comme ça, qu'on me dise ces choses-là. J'ai passé ma vie à apprendre et à recevoir des enseignements que j'étais frustré de pas avoir dans ma famille, même si ils m'ont appris énormément de choses de la vie, mais pas ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis content de leur transmettre. Bon, quand on se voit, on se parle, et puis c'est plutôt inversé, quoi. Donc c'est chouette. Mais je crois que ce métier-là, d'accompagner quelqu'un à aller au profond de lui-même ou d'elle-même pour en tirer l'espèce de d'essence. Et de se dire, ah bah tiens, à partir de ça, bah tiens, quelle forme ça peut prendre aujourd'hui? Parce que c'est toujours une question de aujourd'hui, demain, si j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose. Et en fait, ça, évidemment, bah, ça passe forcément par la psychologie, on va dire, globalement. Donc, traverser ses peurs, donc comprendre ses émotions, comprendre son histoire familiale, c'est hyper important. Comprendre d'où on vient, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'on veut garder de ce dont on a hérité. Et après, la partie créative, donc ça, c'est l'autre partie de ma vie qui, notamment, s'est faite dans la musique, mais pas que. C'est comment tu mets ça en forme, quoi. Et en fait, pour moi, c'est les deux trucs essentiels, quoi. Donc, même si ça prenait pas cette forme-là, je pense que cette base-là, ce socle-là de aller explorer les dedans pour savoir comment mettre en forme dehors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu vois, après demain, si ça passe pas par réaliser un album ou faire une séance d'analyse, eh ben, je ferai autre chose, mais il n'y a pas de souci sur la forme, en fait. Moi, mon cœur de l'essence de ce que j'ai envie de faire et de ce qui me passionne, il est déjà très clair. Donc après, ça peut passer par... tu vois, bah là, j'écris un bouquin, voilà, là, c'est, je me laisse même surprendre par la forme, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a 6 mois, je voulais pas écrire de bouquin.
Qu'est-ce que c'est que ce bouquin?
Bah, c'est le bouquin, c'est cette proposition justement d'avoir analysé grâce au compte Instagram un grand panel de peurs pour en tirer les 21 plus grandes, pour inviter justement à contacter l'amour en les traversant ensemble. Quoi. L'idée, c'est pas comment on fait pour aimer, c'est comment on fait pour ressentir ce truc-là qu'on appelle l'amour. Et du coup, la proposition, c'est un peu les 12 travaux d'Hercule, quoi.
Génial. Il est prévu pour quand?
Écoute, c'est septembre, normalement.
Septembre.
Ouais, la rentrée de septembre.
Super. Bah, j'espère aussi. Il y a un point que tu as abordé là, en décrivant un petit peu ton parcours. Tu parles des émotions, tu parles du fait d'étudier aussi son passé, entre guillemets.
Ouais.
Je sais que tu as étudié la psychogénéalogie ou le transgénérationnel.
Ouais, ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est?
C'est la spécialisation que j'ai choisie, moi, en psycho. Avec l'approche analytique jungienne, en plus. La psychogénéalogie, ou en tout cas l'analyse transgénérationnelle, c'est l'idée de... notamment à partir de l'outil du génogramme. Le génogramme, c'est ce que beaucoup appellent l'arbre généalogique, mais en fait, il est nomenclaturé. Il y a vraiment des règles et une légende à faire, etc., pour pouvoir le mettre en forme. Mais en gros, c'est comment c'est visualiser ce que tu as intégré de ta famille. Donc en gros, tu vas voir qui sont les couples, mariés, pas mariés, les dates de naissance, dates de mort, les noms, les prénoms, les traumas, voilà, et avec des codes couleurs, etc. Et du coup, ça te permet d'avoir la carte du monde de ce que tu as intégré de ta famille, d'où tu viens, comment ont fonctionné ces deux grands clans, que sont le clan de ton père et le clan de ta mère, parce que c'est un mariage, c'est ça. Enfin, on est le fruit de la réunion de deux clans. Mmh. Donc
il faut avoir ces informations en amont.
Bah, c'est mieux. Bon, déjà, tu peux le faire juste avec ce que tu sais pour voir ce que tu connais de ta famille, tu vois. Et puis après, évidemment, si tu le fais en analyse, si tu le fais de manière accompagnée, de toute façon, l'idée, ça va être de faire de la recherche, quoi. Mais je trouve ça, moi, déjà passionnant de passer du temps à chercher, à comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de la famille, quelles sont les grandes lois. Ça, c'est aussi la psychogénéalogie, c'est de savoir identifier les grandes lois qui régissent le système familial, parce que la famille, c'est un système, c'est une société. Et comme toute société, pour que ça tienne, il faut des lois. Donc il y a des lois comme chez nous, on parle pas, chez nous, on communique pas, chez nous, on pleure pas, chez nous, il n'y a pas d'artistes parce que c'est vraiment que des saltimbanques, ou au contraire, chez nous, on est tous artistes, donc c'est vrai que si tu fais un métier dans la banque, c'est un peu mal vu, ou chez nous, on parle pas d'argent, ou alors chez nous...
Est-ce qu'on appelle les injonctions ou pas?
Ah bah, en fait, ça devient des injonctions à partir du moment où c'est transmis des parents aux enfants, effectivement.
D'accord.
Et là, sauf que l'injonction, elle n'est pas toujours en plus verbale. Hein.
Oui, il y a beaucoup de...
Tu vois, juste quand le haussement de sourcil de ta mère, quand tu fais un truc qui ne convient pas, c'est une injonction déjà. C'est intégré comme une injonction. En fait, l'intérêt de la psychogénéalogie, c'est de savoir finalement comment se construisent ces deux clans, et puis moi, de savoir ce que j'ai intégré ou pas d'eux. Et la grande beauté de cet outil, de cette approche en tout cas, c'est de voir à quel point on est le fruit de ça, à quel point on reproduit, ou au contraire on évite. À quel point, en fait, moi, je sais qu'en séance, j'ai souvent l'habitude de demander qui parle. Et en fait, juste de poser la question, tu vois, la personne, elle dit « Putain, mais t'as raison, c'est ma mère qui parle, en fait. » Elle dit « Bah oui, maman est là, et voilà, et aujourd'hui, ben... Voilà, on travaille avec elle, elle est présente, en quoi elle est présente dans votre vie, etc. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que du coup, la personne se réapproprie aussi, elle, ce qui peut être une ressource dans sa famille. Donc, ah bah oui, bah, moi, ce que j'aime chez mon père ou chez mon arrière-grand-père, c'est que, voilà, il était courageux parce qu'il a fait la guerre et machin. Ok, donc le courage, c'est une ressource, ça peut être intéressant de le garder. Puis il y a des trucs qui sont des boulets aussi, des casseroles, des pathologies, enfin, tu vois, des... même des mémoires, enfin tu vois les mémoires. Alors faut surtout pas en faire une règle générale, mais tu peux avoir, je sais pas, un cas de femme qui a l'endométriose par exemple, ou ça j'en ai aussi quelques-unes, des femmes qui ont des ovaires polykystiques. si tu... Parfois, il se trouve que dans sur un des cas que j'ai eu là comme ça, on s'aperçoit que dans toute la ligne des femmes, il y a eu des abus, quoi. Et en fait, c'est aussi comme ça, parfois, je dis vraiment parfois, parce qu'il ne faut vraiment pas en faire une règle générale, c'est pas parce que tu as eu des abus que tu as une endométriose ou que tu as une endométriose qu'il y a des gens qui se sont fait violer. Mais ça, souvent, en fait, il peut arriver que, voilà, on comprenne aussi certains symptômes du présent en regardant finalement comment un événement traumatique de génération au-dessus s'est petit à petit dilué, puis transformé jusqu'à devenir je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je couche avec un mec, j'y arrive pas parce que dès qu'il y a pénétration, ça se ferme et voilà. Et pourtant, je me suis jamais fait violer. Ok, est-ce que ça te parle comme sujet? Est-ce que tu veux qu'on aille voir? Et dans ce cas-là, avec l'angle évidemment de la personne, c'est-à-dire elle vient quand même pour sa problématique à elle, on va analyser quels sont les enjeux du génogramme et de la famille, quoi.
Il y a deux questions qui me viennent. Ça s'imprime. La première, c'est où est-ce que ça s'imprime dans le corps, cette information? Et la deuxième, c'est j'ai entendu, ou je ne sais pas si c'est une interprétation de ma part, que quand tu adresses ce problème-là, tu solves d'une certaine manière aussi pour les générations passées.
On est dans quelque chose d'assez invisible là.
Ça, c'est une croyance de...
Écoute, après ça, j'imagine que il peut y avoir des preuves scientifiques. En tout cas, ne serait-ce que de manière très très biologique, on est tous du recyclage. On est que du recyclage en fait. Enfin, tu vois, quand tu achètes un iPhone reconditionné, il a été pété, machin, il a appartenu à quelqu'un, il y a eu des informations dedans, et puis on te le remet à peu près en forme pour que tu aies l'impression d'avoir un nouvel iPhone. Tu vois qu'il y a 2-3 rayures dessus, mais il marche. Bah nous, on est ça en fait. On n'est que des produits recyclés. L'eau qui est dans notre corps, c'est la même que celui de ta mère, ton père, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère. Enfin, c'est la même flotte, en fait. Donc, l'eau étant un des transmetteurs les plus puissants, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites aussi au niveau de l'information de l'eau. Donc, on est tous, ne serait-ce que la génétique. Tu vois bien qu'on est... Ce serait ouf, par exemple, de faire des enfants et qui nous ressemblent pas du tout. Mais vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout, tu vois. Genre, t'as deux blagues qui font un roux et tu fais « Waouh, mais comment ça se fait ?» Tu vois ? Eh ben, c'est... pourquoi ça n'arrive que très rarement, voire jamais ? C'est parce que, justement, on est bien du recyclage des trucs du dessus, quoi. Tu vois ? Donc, on est un espèce de produit modifié, transformé, qui est le fruit de je sais pas combien d'années d'histoire, en fait. Donc, y a déjà cette idée-là. Et puis, par rapport au fait que quand toi, tu travailles sur ta problématique en regard de ton système familial et que tu parviens à la résoudre pour X ou X raisons, ça, encore une fois, il n'y a pas de règle, mais je crois qu'il y a déjà le fait que quand tu commences à travailler sur ton génogramme, tu commences à poser des questions. Donc, ça secoue un peu. C'est « Ah, mais pourquoi tu veux me parler de ça ?»« Bah, parce que je travaille sur ça en ce moment. Je voulais savoir, mamie, quand elle est arrivée en France, ça allait ? C'était comment pour elle de s'intégrer, d'être la seule femme, machin ?»« Ah bah non, mais c'est ta grand-mère, elle s'est toujours sentie seule. »« Ah, ok. » Et il se trouve que la nana travaille sur la solitude ou l'isolement, tu vois. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en fait... Moi, j'aime bien l'idée que le génogramme, c'est un grand directeur de casting.
Ouais.
Ça, j'en parle souvent, c'est que c'est un grand directeur de casting et du coup, en fonction de la mission de l'arbre, de l'histoire que veut raconter l'arbre, de ses lois, etc., l'arbre généalogique, donc, du coup, en fait, il va choisir les meilleurs rôles aux meilleurs endroits, aux bons endroits, tu vois.
D'accord.
Et après, en gros, l'idée de travailler sur son génogramme, c'est de te dire « Ah ok, mais en fait, c'est ça le rôle que j'ai, moi, dans mon truc, et puis telle personne a ce rôle-là, et puis moi, je suis identifié à ma grand-mère, en fait. Je fais exactement comme elle, je ne me rendais pas compte, parce que en fait, je ne l'ai pas connue. » Tu vois ?
Et ça, c'est donc pas imprimé dans l'ADN, Mais plutôt dans les microbiotes, si j'ai bien compris.
Bah si, de l'ADN forcément. C'est aussi. Ne serait-ce que physiquement, tu vois. Je te disais, physiquement, tu ressembles déjà à tes aïeux.
Ouais. Moi, je parlais des.
Mais ça, tout
dire, des
personne.
Patterns émotionnels.
Mais
des
oui,
patterns,
mais ça, personne, personne
des...
leur met en question. Personne se dit, tiens, c'est bizarre, il ressemble à ses parents.
Non.
Mais par contre, tout le monde se dit, putain, c'est bizarre, il ressemble à ses parents au niveau émotionnel ou psychique. Bah, en fait, c'est la même matière. Hein, c'est... Tu vois ? Donc, si tu ressembles à... Souvent, en plus, ça saute une génération. Donc, si tu ressembles à un de tes grands-parents, c'est le cas ou pas ? Physiquement. On te dit pas, ah, mais attends, tu ressembles quand même vachement à ton grand-père,
c'est
ta grand-mère.
C'est vachement plus flagrant avec mes parents. Mais
tes parents ? Bah, souvent.
Mais j'ai des cousins qui ont des traits assez troublants, tellement c'est
identique. Du grand-père quand il était jeune,
ouais,
quoi,
exactement,
vois, comme ça.
Exactement.
Ouais, c'est ça. Bah, ça choque personne. Mais donc, du coup, tu récupères pas que le physique. Donc, en fait, c'est tout ce qui te constitue, quoi. Et du coup, le travail sur l'ego, et c'est en ça qu'il est intéressant aussi à une autre échelle, c'est comment j'ai été conditionné et qu'est-ce que j'ai envie de choisir ou de redécider aujourd'hui pour moi, quoi.
Intéressant. Tu as exploré autant l'énergétique que la psychologie.
Ouais, pour l'instant, ouais.
Ouais. Comment est-ce que tu as trouvé des points communs entre ces deux
univers ? C'est ça que j'ai cherché pendant des années, en fait. C'est pour ça que j'ai fait les deux.
Génial. Alors, verdict.
Mais c'est ce qu'on vient de dire, en fait. Hein. C'est que c'est pareil. C'est pareil, en fait. C'est que nous, on va se dire, ah bah tiens, c'est marrant, il ressent les mêmes choses que l'arrière-grand-père. Mais en fait, il ressent les mêmes choses que l'arrière-grand-père. C'est pareil que c'est une forme de langage, c'est une forme, quoi, tu vois. Et ben, du coup, en termes d'énergétique, ça peut être exactement pareil, tu vois. Tu peux très bien avoir te retrouver avec la même structure énergétique ou les mêmes problématiques énergétiques, l'énergétique étant le physique plus l'énergétique. Souvent, les gens ils croient que l'énergétique, ça ne concerne pas le corps en lui-même. Mais en fait, si, le corps fait partie de l'énergétique aussi, quoi. C'est pas une couche qui est séparée, quoi, c'est ça que je veux dire.
Ok.
C'est pas genre soit je travaille sur le corps, soit je travaille sur l'énergétique. Si je travaille sur l'énergétique, je travaille sur le corps, en fait. C'est inclus dedans.
On le sent, je trouve, savoir quand il y a un corps qui vibre ou pas.
Ouais,
qui,
bah oui, c'est ça.
Qui dégage quelque chose de
plus. Le principe de l'énergétique, c'est un peu comme ce qu'on disait sur l'eau. C'est-à-dire que autant l'eau, c'est un super transmetteur, l'énergétique, en fait, c'est simplement ce qu'on appelle l'éther. Qui est ce qu'on voit pas là, toutes les particules qu'on voit pas qui sont transparentes. Donc c'est pour ça qu'on souvent on appelle ça le corps éthérique dans certaines spiritualités. Et l'éther, en fait, c'est ce qui transmet l'information. La physique quantique étant spécialisée dans la je dirais pas la science de l'information, mais en tout cas la science de l'infiniment petit. Et en fait, quelque part, l'unité la plus petite, c'est l'information. Et donc du coup, en travaillant sur l'énergétique, en fait, tu peux travailler sur l'énergétique parce qu'en fait, l'information qui n'est pas palpable à son échelle unitaire, quand elle est très très concentrée et très condensée, du coup, elle devient un tout petit peu plus dense. Et puis plus ça devient dense, plus ça devient épais. Et donc en fait, parfois, quand tu passes ta main, tu sens bien la densité de l'air qui est différente, tu sens bien la densité de la personne, du champ énergétique de la personne qui est différente. C'est un peu comme quand tu mets ta main dans l'eau, dans un bassin ou dans la mer, ou dans une piscine plutôt parce que ça ne bouge pas, et que tu pousses ta main comme ça dans l'eau. Tu sens une résistance, quoi. Et ben là, c'est parce que la densité et plus le mouvement et la vitesse créent de la résistance, quoi. Tu vois. Et ben l'énergétique, finalement, c'est un petit peu travailler avec la matière de l'information. Donc quand tu travailles sur la psyché, tu travailles sur l'information qui a été traduite par l'inconscient de la personne. Enfin, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est un peu l'énergétique, c'est un petit peu l'inconscient quand il n'y a pas de mots et quand c'est devenu de la matière, quoi.
Ok.
Tu vois. Et donc, en fait, oui, c'est pareil.
Et en psychologie, t'adresses le conscient ou l'inconscient aussi, quand même.
On travaille essentiellement sur l'inconscient.
Sur l'inconscient, dans la psychologie. D'accord.
Conscient, c'est très, très peu...
Il est un peu limité, celui-là.
Bah oui, il y a rien.
Comment est-ce que tu sais auquel tu fais appel ? Ou est-ce que tu fais appel au côté psychologie et énergétique
pareil,
à chaque séance ?
C'est pareil, c'est les deux en même temps.
C'est les deux en même temps, tout le temps. D'accord.
Bah ouais, parce que finalement, tu vois, quand tu travailles... je sais pas, imagine tu travailles un traumatisme de mémoire de guerre dans la famille de quelqu'un. Et là, elle se sent, tu vois, la personne, tu la mets à la... Tu fais un psychodrame et tu la mets à la place de l'arrière-grand-père qui était dans la guerre. Et elle va se sentir hyper mal. Comment t'expliques ça ?
L'empathie ?
De l'empathie, ouais, mais bon, pour que ton corps il réagisse dans tes cellules et dans ton champ énergétique, c'est quand même qu'il y a une information
ça,
qui est... Voilà. C'est en ça que je trouve que la notion de temps, elle est très particulière. C'est quoi le temps quand t'étais... Micheline qui vient pour une problématique qui a rien à voir, que avec Angelo tu travailles sur le génogramme, que on va explorer l'émotion ressentie par l'arrière-grand-père dans son traumatisme de guerre, que on va faire un psychodrame ou une gestalt ou une mise en pratique, une mise en mouvement, une mise en situation, en gros c'est ça. Et la profession c'est bah tiens vas-y va à la place de l'arrière-grand-père là pour voir. Et là d'un coup. On saura jamais vraiment, tu vois, la vérité. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une information qui, à ce moment-là, qui est différente. Et donc, l'intérêt de l'analyse et de la thérapie, c'est de savoir ce qu'elle fait de cette information, en fait. Quel sens elle lui donne. On n'est pas à la recherche de la vérité. Est-ce que ça s'est vraiment passé ? Peut-être pas. Mais qu'est-ce que ça te fait, toi, en fait ? Et est-ce que ça t'aide ?
Ça me parle beaucoup ce que tu me dis là. Une question que je me pose toujours, parce que l'énergétique, ça me traverse beaucoup et je creuse petit à petit ce sujet. J'aimerais savoir l'expliquer à un cartésien, très cartésien et très dubitatif, mais curieux quand même. Comment tu lui expliquerais l'énergétique ?
Bah, tu lui dis « montre-moi le vent ».
Ok. Et après.
Bah, il va avoir l'air con quand même.
Ok.
Mais non, mais c'est ça en fait. Tu peux voir que les faits.
D'accord.
Donc l'énergétique comme la psycho au final, comme le chamanisme, ou comme même la philo. J'en parlais avec ma pote Marie. C'est des sciences de l'invisible en fait quoi. Et donc, en fait, le truc, c'est que la science, effectivement, cartésienne, comme ça, comme tu dis, cherche à rendre visible, tu vois, cherche à concrétiser ou à... Enfin, c'est pareil, on parlait d'amour, montre-moi l'amour, vas-y. Et pourtant, cette personne a probablement déjà ressenti ça. Bah, ça, c'est énergétique, quand tu ressens l'amour.
Moi, je sais que j'y fais référence parfois en disant « c'était jamais arrivé de rentrer dans une pièce où tu sais absolument pas ce qui s'est passé avant, mais l'énergie est lourde, et tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'est embrouillé, qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a été négatif. » Et ça, pour moi, c'est assez
Pour
palpable.
Moi, l'énergétique, c'est le mot qu'on met sur ce que font tous les animaux.
T'as creusé les émotions chez les animaux ?
Non. Non, j'aime bien les animaux justement pour ça, pour leur spontanéité, leur naturel, quoi. Alors, sauf les animaux domestiqués, du coup, qui font de l'anthropomorphisme.
C'est quoi de l'anthropomorphisme ?
C'est quand tu... Alors, c'est pas eux qui le font, hein, c'est surtout les humains qui le font sur les animaux, mais c'est en gros quand tu prêtes des traits humains à quelque chose qui ne l'est pas.
Okay.
Donc, par exemple, on va mettre un caouet à un chihuahua dehors parce qu'il pleut. Ça s'appelle de l'anthropomorphisme.
Ok.
Alors que bon.
Il a pas forcément besoin.
Bah, j'en sais rien s'il a besoin. C'est sûr qu'il va pas aller dans un magasin chercher un caouet. Donc si tu le mets pas, voilà. S'il a froid, à la limite, je juge pas les gens qui font ça. Mais l'anthropomorphisme, en gros, c'est ça. C'est prêter des traits humains. Donc on va. Je sais pas, on va leur prêter certaines émotions, etc. Certains comportements. Alors oui, évidemment, les animaux ont des émotions. Mais on se rend compte aussi que les animaux qui perdent le plus leurs facultés naturelles sont les animaux domestiqués. Je sais pas ce qu'on fout encore à domestiquer les animaux.
Tu peux pas les remettre dans la nature.
Non.
Facilement après. On jette un peu la pierre au terme développement personnel. Et
c'est qui fait ça?
C'est vrai, c'est qui on. J'ai l'impression que c'est un terme bien. qui est peut-être un peu réducteur. Or, quand tu accompagnes les gens vers leur développement personnel, ou peut-être tu utilises un autre terme, en fait, ce que je voudrais creuser, c'est qu'est-ce qui est représentatif de tout ce que tu apportes dans tes thérapies et les chemins que tes patients parcourent.
Bah, la différence avec le développement personnel, c'est que la thérapie ne fait pas à la place d'eux, quoi. Donc c'est pas moi qui leur apporte. Moi, je pose des questions, je fais des retours sur ce que je sens, sur ce que je vois, sur tiens, ça me fait penser à ça, ou tiens, c'est marrant, t'as dit ça, c'est drôle comme expression pour dire ça. Puis on va analyser l'expression, dire ah bah tiens, c'est marrant ça. Et en fait, c'est de l'exploration non guidée. Non guidée ou semi-guidée, quoi, ça dépend. Mais la différence avec le développement personnel, c'est que, effectivement, c'est vraiment la personne qui vient consulter qui fait le taf, quoi. Alors, oui, c'est vrai que je suis en train de dévendre. Le mec fait rien, en fait. Ben non, je fais rien. Je fais rien parce que justement c'est très 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 difficile de rien faire. Et c'est parce que je fais rien que la personne elle retrouve toute sa liberté, quoi. Y en a qui viennent juste pour essayer de retrouver un petit peu un espace dans lequel elles peuvent enfin dire ce qu'elles pensent sans être jugées. Et puis juste de reconstruire ça au bout de X séances, bah, du coup elles vont pouvoir être capables de le faire en dehors, quoi. Puis il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont vécu des traumas ou des choses plus graves. Mais moi, le seul truc qui me dérange dans le développement personnel, c'est l'aspect protocolaire ou l'aspect didactique. Et surtout, l'injonction à la joie, au bonheur, au bien-être, à la meilleure version de soi-même, à l'amour de soi, etc. quoi. Même si j'en parle, parce que ce sont des notions qui sont universelles. Je passe mon temps à parler de ça et en même temps à dire qu'il n'y a pas de chemin, quoi. Enfin, qu'il n'y a pas de méthode, qu'il n'y a pas de point final ou d'arrivée, quoi. Et
quand tu dis qu'il y a une injonction avec la joie, avec la meilleure version de soi-même, etc., ouais. Qu'est-ce que tu entends par là?
Bah, tu sais, c'est que toutes les injonctions, les messages qui sont à caractère positif, quoi. C'est body positive, c'est tout ce qui est de l'ordre de comment être la meilleure version de soi-même, c'est de l'ordre de comment réussir sa vie, ou, tu vois.
On essaye, en gros, on s'impose d'être dans le bonheur constant alors que ça n'existe pas, c'est un peu ça.
Mais non, mais c'est surtout que c'est personnel. C'est marrant parce que ça s'appelle développement personnel et en fait c'est la généralisation de tout. C'est-à-dire que c'est l'inverse du personnel, c'est qu'en fait on te dit comment faire. Mais même si ça a marché pour moi, si moi je te dis, putain, tu vois, moi ce que j'ai fait dans ma vie, c'est que j'ai toujours pris mon courage à deux mains. Et quand je sentais qu'il fallait que je change de taf, je changeais de taf. J'ai toujours suivi mon intuition, quitte à prendre un risque, etc. Mais ça marche pour moi, parce que c'est mon histoire. Mais je suis qui pour dire que ça va marcher pour X personnes ou que c'est ça qui fait qu'on va réussir sa vie, ou tu vois. Donc c'est ça qui m'agace vraiment le développement personnel actuel, c'est que ça se dit développement personnel, mais qu'en fait on ne fait que enfoncer des espèces de grandes portes généralistes comme s'il y avait des grandes recettes pour aller bien.
Pour nous faire rentrer dans des boîtes.
Bah peu. Ouais, et puis surtout en fait ça nie complètement ton processus à toi et ton histoire, enfin ça nie tout, quoi.
Un point que je voulais aborder, c'est la vulnérabilité, parce que c'est central dans en tout cas les comptes Balance ta peur et le podcast qui va avec.
Il y a
la vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce que ça rend plus fort?
La vulnérabilité, c'est l'effet de l'amour. Je pourrais pas le dire plus concrètement.
C'est l'effet de l'amour.
L'effet de l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment où il n'y a plus rien à protéger parce que t'es plus identifié avec que dalle, quoi. Que t'es plus dans une histoire passée que tu projettes dans le futur, que t'es plus dans une peur, que t'es plus dans... c'est une sorte d'accueil, tu vois. Et pour moi, ça devient une force, évidemment, parce que l'amour est une force. Je crois que c'est un peu ce qui fait que ça sauve beaucoup de choses. Mais c'est aussi parce que au moment où t'es totalement vulnérable, il n'y a plus rien à protéger. T'imagines bien que l'attaque d'un château fort, s'il n'y avait pas de rempart, il ne se passerait pas grand-chose.
Mais du coup, il serait vachement plus facilement attaquable, le château, non?
Non, mais s'il n'y avait même pas de mur. Il n'y aurait plus rien.
Je ne sais pas l'image, du coup, je vois un bain de sang, moi.
C'est ça qui est dit. Ouais, moi aussi, je regarde Game of Thrones en ce moment. C'est pour ça. En gros, c'est l'idée qu'il n'y a plus rien à protéger. C'est parce qu'il y a de la protection que ça résiste. Tu vois bien que la matière, on parlait d'énergétique, quand elle est densifiée, quand elle est condensée, plus elle est condensée, plus elle devient solide. C'est pour ça que la table, on peut poser des trucs dessus, parce que c'est de l'énergie, c'est du vide condensé.
Ok.
Tu vois? C'est très condensé, donc on peut poser des trucs dessus. Mais en fait, c'est du vide sur du vide. Ton cahier sur la table, c'est du vide sur du vide.
Je regarde ma table d'une totale autre manière. Alors là, je suis en train de redécouvrir
ma table.
Et
donc, du coup, en fait, il y a de la résistance. Ça résiste, quoi. Mmh. Tu vois, ça se tient, quoi. Et en fait, pour moi, la vulnérabilité, c'est quand il n'y a plus ça, quoi. Mmh. C'est pas de la fragilité. Au contraire, c'est... Alors, prenons un autre exemple. Prends l'exemple d'un bras de fer.
Ouais.
Tu vois bien que si tu ne m'opposes aucune résistance, ça rend la chose nulle. Enfin, tu vois, c'est zéro, quoi. Il ne se passe rien, en fait. Et du coup, ça se fait. Il y a beaucoup moins d'effets, il y a beaucoup moins de. T'as beaucoup moins mal, t'es beaucoup moins tendu. Enfin, voilà. C'est parce que justement, il n'y a plus de résistance, quoi. Mmh. En fait, la vulnérabilité, c'est l'absence de résistance. Donc, pour moi, c'est vraiment synonyme d'accueillir, quoi. Accueillir, ça ne veut pas forcément dire accepter, ça ne veut pas forcément dire se laisser faire. Ça veut juste dire constater que ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est ça. Ok, ça ne va pas. Ok, vas-y. Je vais aller à fond là-dedans et puis je vais voir ce qui se passe. Et en fait, pour moi, la vulnérabilité, c'est l'effet de l'amour, quoi, effectivement.
Et c'est en ça que ça donne de la force ?
C'est ce qu'on disait, c'est que si tu regardes un petit peu... tous les moments où on a où il y avait de l'amour dans l'air, c'est-à-dire de l'amour comme résultat, enfin tu vois, c'est des moments où tout se relâche. Tu vois. C'est les moments après la Coupe du Monde autant que les moments après les attentats, c'est tu vois, il y a un moment donné où il y a tu vois, si on prend les attentats, par exemple, c'était tellement violent que, en fait, la réponse qu'on avait par l'amour, c'est de dire « Mais vous savez quoi, on va aller quand même boire des coups sur des terrasses. » Et puis tant pis, quoi, on verra bien.
Ouais.
Tu vois, il n'y a plus de barrière. Ou alors, c'est soit ça, soit c'est l'inverse. On est dans la peur et on se barricade tous. On ferme les restos et tu vois. Donc pour moi, ça, c'est de l'amour, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher. C'est parce qu'on a traversé un truc tellement difficile qu'on a abandonné un peu tout ce qui faisait frontière avec l'autre, quoi. Tu vois.
Je vais enchaîner sur une question insensée.
Ah !
Est-ce que tu peux nous partager ton cauchemar le plus mignon ?
Oh my god ! Putain, en plus, je les travaille, les cauchemars, mais... Mon cauchemar le plus mignon. Ça existe, ça ?
Peut-être.
Écoute, je vais partir là-dessus parce que c'est le dernier que j'ai fait et franchement, c'est ridicule. Donc, autant y aller. En plus, c'est très réaliste, donc je sais pas pourquoi. C'est vraiment bizarre. Ok, donc je faisais l'amour avec ma copine et... Je sais pas pourquoi elle se barre... comme ça, subrepticement, pour aller pisser. Elle revient, je me lève, je vais pisser. Et là, je rentre dans la chambre et en fait, tout était rangé. Enfin, le lit était rangé, elle s'était rhabillée, enfin, comme si c'était en plein milieu de la journée, mais sauf qu'on était la nuit. Et je suis là, genre, mais je comprends pas, c'est horrible. Enfin, pourquoi tu fais ça? Et on commence à s'engueuler parce que je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, machin. Et en fait, elle a cette espèce d'air hyper. Comment? Provocateur. Tu vois, elle dit, bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, je sais pas. Et ça m'énerve. Et je lui fous une énorme claque dans la gueule. D'où le cauchemar.
Ah oui, bah oui.
et en fait, ça n'a rien changé. Elle continue à se foutre de ma gueule comme ça. Et puis après, je sais plus comment, on se retrouve en fait. Finalement, c'est plus chez moi, mais c'est une chambre d'hôtel près d'un désert. Et on sort comme si on sortait pour aller en soirée. Et on croise des amis avec qui j'ai été dans le désert. Et gros malaise. Enfin, c'est un cauchemar de merde, quoi. C'est-à-dire que c'est ni vraiment un rêve cool.
Ouais. Mais plein de ressentis un peu inconfortables.
Ouais, ouais. Non, mais tu sais, d'avoir genre vraiment levé la main quoi, sur quelqu'un, ça m'a... Et bref, voilà.
Bon, c'était quand même, dans la question, le cauchemar le plus mignon. Je sais pas si il est...
Non, mais j'ai pas rêvé de genre un gros nounours mignon qui, à un moment donné, me mange ou me dévore. Non, c'est...
Ouais, ok.
Non.
C'était difficile comme question.
Ouais, grave.
C'était difficile comme question. Mais en général, je pose une question insensée pour rentrer un peu dans la matière après. Et la prochaine, c'est quelle a été, à travers toutes ces différentes explorations, que ce soit tes projets artistiques, les différents métiers que tu as appris, côté thérapie, quel a été ton plus grand apprentissage sur toi?
Je vais dire un truc con, hein. Je crois que c'est une phrase qui a déjà été dite par un grand philosophe qui n'est pas moi. C'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est le plus grand apprentissage, vraiment, mais ça c'est vraiment personnel. C'est que en plus, moi je peux être très convaincant, je peux avoir un espèce de discours hyper sûr et donc du coup arriver avec toutes mes certitudes. Et que ce soit dans le métier d'accompagnement artistique ou d'accompagnement thérapeutique, partir du principe que je ne sais pas pour l'autre, voire que je ne sais pas pour moi-même, wow, ça a été des claques dans ma gueule à chaque fois, quoi. Parce que c'est que dans ces moments-là que j'ai eu des espèces d'épiphanies ou de résolutions ou de moments de grâce, tu vois. C'est quand j'ai lâché mes certitudes, quoi. Et je crois que lâcher ses certitudes, c'est aussi l'espèce de mouvement qui précède la créativité, quoi, tu vois. Donc j'étais très en colère pendant très longtemps étant plus jeune parce que j'étais sûr que blablabla. Et évidemment, ça s'est apaisé quand je me suis dit, ah ouais, bon, en fait, d'accord. Ah bah non, c'était pas ça, en fait. Donc vraiment ça, le je ne sais pas. Meilleure réponse du monde, je ne sais pas quand même.
Ouais.
T'imagines un débat politique avec que des je ne sais pas. Ouais, mais ce serait vachement mieux.
C'est... Bah ouais.
Je sais pas.
Au moins on saurait ce qu'il y a réellement creusé, quoi. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, ça fait sens pour toi?
Oui.
Pourquoi? Pourquoi tu fais ça?
Pourquoi je fais ça? Parce que c'est... C'est exactement l'impulsion qui me donne envie de me lever le matin. Parce que c'est exactement le pont de tout ce qui m'intéresse. Parce que c'est exactement la meilleure façon pour moi d'incarner et de mettre en forme... ce qui me motive dans la vie, en fait, ce qui me questionne, ce qui m'intéresse, quoi, tu vois. C'est pas genre je vis et je travaille à côté, quoi. Je travaille beaucoup ou je vis beaucoup. Et c'est en ça que c'est parfois difficile et que je suis parfois crevé, parce que c'est la peur dont on parlait tout à l'heure, la première, c'est ça aussi, c'est que c'est tellement exactement ce que j'ai envie de faire tout le temps, que c'est compliqué de parfois renoncer à certains projets, à certaines idées, certaines relations.
Qu'est-ce qui est sacré à tes yeux ?
Tout.
Propre. Qu'est-ce qui te permet de te connecter à toi-même ?
Mon corps, déjà. Ça, c'est mon outil. J'adore. C'est vraiment un curseur hyper précis pour peu qu'on soit un peu sensible ou qu'on ait envie de le développer, en tout cas. C'est un outil qui me permet de vraiment prendre la température, de vraiment sentir, ah tiens, ah ok, merci. Tu vois, vraiment, il y a des gens qui remercient leur corps, quoi. Mais moi, je remercie mon corps, mais pas je pense pas pour les mêmes raisons. Je dis merci parce qu'il me file plein d'infos tout le temps. C'est aussi à travers lui que je sens les choses en énergétique, que mon intuition... prendre forme, que je peux avoir j'en sais rien, parfois des visions, des acouphènes, des choses où je me dis ah ok, merci pour l'info.
Un acouphène par exemple, qu'est-ce qui te...
ça dépend duquel, ça dépend de la fréquence, ça dépend de l'oreille aussi.
D'accord.
Mais voilà, le corps et puis l'autre, la relation, vraiment la relation, quoi. L'autre, c'est un super outil de développement personnel. C'est pas dogmatique, au moins. Puis ça bouge tout le temps, donc c'est la relation, pour moi, c'est un vrai moyen de c'est-à-dire comment je sais que j'existe s'il n'y a pas les yeux de l'autre pour le voir, quoi, tu vois. Donc il y a ce truc là c'est mon corps déjà, et puis après l'autre.
Y a-t-il des choses que tu as identifiées qui te font te déconnecter de toi?
Y a-t-il des choses auxquelles je me suis identifié qui me font déconnecter de moi ? Ah bah oui, carrément. Bah mes peurs. Je crois que j'ai pas mal d'orgueil aussi. Certaines blessures, certains manques que j'ai eus qui font que ça me permet juste de justifier certains comportements, en fait, tu vois, alors qu'en fait j'en ai pas besoin.
Et ça te déconnecte ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de ressentis dans le corps, mine de rien.
Ouais, ça me déconnecte parce que je vois bien que... En fait, tu sens vraiment... Quand ça te déconnecte, tu le sens parce que t'es plus avec l'autre. T'es... Vraiment, ça capte pas, quoi. C'est vraiment... Mmh. Moi, j'adore le téléphone pour ça. C'est que c'est très symbolique, quoi. C'est que... T'as des fois où il n'y a pas de réseau. T'as des fois où ça capte pas. T'as des fois où... où t'as trop de messages. T'as des fois où... Tu vois, et bon, et
c'est,
je trouve,
c'est parlant comme image,
tu vois. Et du coup, je trouve que des fois, en fait, ouais, c'est assez flagrant, quoi. Tu le sens parce qu'en fait tu sens que t'es retourné dans ta bulle, t'es retourné dans ton monde et t'es plus là, quoi. La présence, quoi.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à Angelo ado?
Alors, quel âge?
Ado, je sais pas, je dirais 13, 14 dans...
Attends,
ces
13, on est en quoi? On est au collège.
Ouais.
T'inquiète pas, tu vas rencontrer des filles.
On arrive sur le set de questions fixes de la fin, Angelo. Et la première, c'est: est-ce que t'as un motto? Une phrase, une citation,
c'est quoi un motto? J'ai une moto, ouais, mais...
Ok, je définis, je précise.
Ouais.
Un motto, c'est une genre de phrase qui peut changer d'ailleurs, hein, qui n'est pas forcément unique toute ta vie, mais qui t'aide à te lever le matin.
Une sorte de mantra, mais
ouais,
du jour, quoi.
Une sorte,
quoi,
de mantra, ouais.
Mais attends, mais moto, explique-moi, ça vient d'où?
Eh ben, je sais pas.
Ah ouais, d'accord.
Mais je vais chercher.
Ok.
Je vais chercher.
Est-ce que j'ai un moto? Un truc que je me dis tous les jours, quoi.
Pas forcément que tu te dis tous les jours, mais quelque chose en lequel tu crois très fort. En tout cas, aujourd'hui. Ah.
Hmm. qu'est-ce que je vais bien découvrir encore aujourd'hui. C'est ça, je crois.
Ok.
Ouais.
Une personne inspirante, un mentor, des mentors.
Franchement, mes formateurs, quels qu'ils soient, je suis toujours très bien tombé. Et j'en ai eu un paquet, mais il y a Pascal qui a été le premier vraiment. Pascal Ancelin, que je vous recommande, c'est un ostéo qui est magique. Qui m'a ouvert le champ de l'enseignement de l'énergétique, de la santé en fait. C'est quoi la santé? C'est quoi le. Qu'est-ce qui est non résolu? C'est quoi une émotion, etc. Et puis après, ouais, il y a quelques personnes. Qui m'aident beaucoup aujourd'hui, mais si je devais donner des noms peut-être un peu plus connus ou qu'on pourrait aller chercher, j'ai eu la chance de recevoir des conseils d'Esther Perel que j'admirais déjà et puis que j'ai rencontré grâce à Greg de Vlan. Et Esther Perel, ouais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré sur mes relations, notamment, tu vois, la sexualité, voilà.
Qui a un super TED Talk, d'ailleurs.
Qui a un des plus gros TED Talk de l'histoire de TED.
D'ailleurs,
ouais, elle en a deux, trois, ouais.
Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui cherche à aligner ce qu'il est, ce en quoi il croit, avec ce qu'il fait au quotidien ?
Bah, déjà, c'est de savoir en quoi tu crois. Je pense que la base, ça reste quand même de se dire, de se poser quelques minutes, quelques heures, et de sentir qu'est-ce qui fait sens pour cette personne, qu'est-ce qui la met en joie, en fait. Ça, c'est un super point de repère. Tu te lèves, tu fais ton truc, tu vas au taf, tu fais « Ah, mais attends, mais j'ai pas le petit truc que quand je joue à la console ou quand je vais voir des potes. » Donc, il y a ça aussi. Je pense que c'est important d'avoir comme point de repère la joie et le plaisir. Et puis après, pour que ça s'aligne, en fait, je crois qu'il faut vraiment traverser ses peurs. Quelque part, il faut arriver à trouver des ressources pour sortir du conditionnement et des injonctions de réussir sa vie et gagner sa vie. Voilà. Ben, moi, j'ai fait ces paris-là. J'ai bouffé des pâtes à certains moments de ma vie. Enfin, tu vois, c'est... Et certes, j'ai pas eu une vie horrible, mais j'ai eu des moments difficiles, et du coup, il y en aura toujours, quoi. Donc, tant qu'à se faire chier pour faire un truc qu'on aime, autant faire un truc qu'on aime, quoi.
Est-ce que tu pourrais nous partager à présent deux vérités et un mensonge te concernant ?
Ah !
Tu nous dis pas lequel est lequel.
D'accord. Je parle couramment philippin. J'ai gagné une compète de roller. J'ai joué à l'Olympia.
Sweet. Je vais te présenter à présent. À présent, je vais te présenter. Présentement. Bonjour. Ashanti.
Ah.
Coucou.
Je la regarde depuis tout à l'heure en plus.
Elle te regardait aussi.
Ouais.
Ashanti, c'est une poupée qui vient du Ghana.
Ouais.
Elle est symbole de fertilité là-bas.
Oh.
Je me la suis appropriée. Je vais te la prêter.
Merci.
Je me la suis appropriée sur le podcast et c'est devenu un peu la baguette magique du podcast. On peut faire un vœu pour permettre à ce que le monde ait un peu plus de sens. Et j'aimerais que tu nous partages ton vœu.
Mon vœu pour le monde ?
Pour que ça fasse plus de sens, à tes yeux.
Je souhaite... que chacun et chacune ait le courage de se voir tel qu'il ou elle est.
Ok, c'est assez puissant. As-tu à présent une... Merci beaucoup.
Merci Ashanti.
As-tu une personne à me recommander qui est... qui serait intéressant d'interviewer sur le podcast Insensé, qui aurait aligné ce qu'elle fait et ce en quoi elle croit.
Dans les gens qui sont pas tout le temps interviewés ou
quelqu'un qui semblerait intéressant d'interviewer à tes yeux.
Bah,
que tu connais. Hein,
mon réflexe, c'est Mai, quoi, forcément. Mais bon, tu l'as peut-être déjà interviewé.
Qui ça ?
Mai Hua.
Non.
Mai Hua, c'est une ancienne experte en couleurs, qui travaille pour les couleurs des certaines marques, etc. Qui était réelle, enfin, qui est réelle. Et qui a réalisé récemment un film, un documentaire qui s'appelle Les Rivières.
D'accord.
Qui est un documentaire sur la lignée des femmes de sa famille.
Ouh, si, je suis tombée. Oui, waouh. Qui est puissant d'ailleurs.
Ah bah
j'ai
ouais.
vu le teaser de ce
ah
documentaire.
Bah
ouais. J'étais, mais.
En fait, ça serait
hyper touchée.
Ça serait chouette pour la suite de cette conversation sur le transgé, sur l'énergie, sur l'alignement, sur ce qu'on veut pour
chouette.
Le monde, tout ça.
Ah bah je veux bien.
Donc, Mai, ouais. Oh bah Mai, tu la contactes, tu dis coucou, je suis une amie d'Angelo, c'est parti. Hein.
Super, trop bien. Je vais te demander ce qu'on te souhaite pour la suite, mais avant, il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir, parce que j'ai vu que tu organisais un atelier pour créer l'alliance entre son masculin et son féminin.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça ressemble, un atelier comme celui-là ?
C'est comprendre l'idée du couple intérieur, pour savoir...
Que chacun d'entre nous...
Pour savoir ce que Jung appelait l'animus et l'anima, hein, le masculin et le féminin, hein. Pour savoir un petit peu comment prendre conscience un peu de ces enjeux intérieurs pour peut-être améliorer ses relations à l'extérieur, justement, et notamment en couple.
Chouette. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, Angelo ?
Écoute, je finisse avant fin mai mon livre, parce que c'est mon éditeur qui m'a... un petit peu mis la deadline. Allez voilà, pour que si on veut que ça sorte en septembre, en tout cas, il faudrait que je l'ai fini avant fin mai.
Bon, et ben c'est ce que je te souhaite.
Merci.
Merci infiniment pour ton temps.
Merci
et
à toi.
Et ton partage. Bye bye.
Ciao.
Un immense merci à Angelo pour son partage et cette discussion passionnante. Je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et me retrouver sur Instagram @encensé_ pour des publications quotidiennes d'inspiration visuelle et de citations inspirantes. À très vite. Insensé. Comprenez bien le sens, qu'il soit propre, sale ou figuré. Sans aller dans mon sens, non. Ne me brossez pas dans le sens du poil. Faites appel à vos 5 sens. Mettez-vous sans dessus-dessous. Car non, ce n'est pas à sens unique, mais bien à double sens.
À demain !
L'histoire a commencé.
Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Ah ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez.
What's your purpose ? What's your cause ? What's your belief ?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bolche !
Réfléchissez.
Décollez.
La vie a-t-elle un sens ?
Qui suis-je ?
Mais il est complètement fou ce mec !